Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Une porte entrouverte au dialogue dans une déclaration historique très attendue devant le Parlement régional. Le président séparatiste catalan Carl Puigdemont a réaffirmé le droit de la Catalogne d'être un État indépendant, mais le Parlement doit suspendre cette décision, a-t-il ajouté, pour permettre le dialogue avec Madrid. En début de semaine, le monde de l'économie avait anticipé une déclaration d'indépendance de la région. 6 des 7 entreprises cotées à l'indice des valeurs vedettes de la bourse ont préféré transférer leur siège social hors de Catalogne, parmi elles 2 banques. Pourquoi une telle prudence? C'est la question que nous avons posée à Catherine Petit. Elle est économiste spécialiste de l'Europe à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques à Paris.
Les entreprises et les marchés en général n'aiment pas l'incertitude. Donc aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur en Catalogne, du moins jusqu'à la semaine dernière, vous avez votre activité en Catalogne, vous exportez vers la zone euro, puisque les 3/4 des exportations catalanes sont à destination de la zone euro. Vous êtes membre de la zone euro, donc vous avez une monnaie dont vous savez qu'elle est plutôt forte, une monnaie qui est stable. Vous avez ce grand marché, encore une fois, de la zone euro qui est à vos portes. Et d'un seul coup, le risque est possible et que la région dans laquelle vous produisez devienne un État, la Catalogne, et que cet État ne soit plus membre de l'Union européenne, parce que c'est la position aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne de dire aux Catalans, si vous décidez de devenir indépendant, eh bien, il n'y a aucune garantie que l'on accepte que vous redeveniez membre de l'Union européenne. Il faudra passer tous les critères d'entrée dans l'Union européenne. Donc pendant ce temps-là, pendant cette transition, en supposant qu'effectivement la Catalogne redevienne membre de l'Union européenne, que se passe-t-il pour les entreprises? Cela pose énormément de questions sur le plan économique et financier.
Et on voit bien que dans cette peur de l'indépendance, les banques sont les premières à réagir. Pourquoi ?
Si les ménages catalans prennent peur et déplacent leur épargne ailleurs dans la zone euro, ce qui est généralement un risque qui arrive quand on a des incertitudes politiques et économiques à l'intérieur d'un pays, si dans un deuxième temps les entreprises elles aussi prennent peur et décident de relocaliser leurs sièges sociaux ailleurs dans la zone euro, comme l'ont déjà fait un certain nombre de grandes entreprises, mais plus généralement pour des plus petites entreprises de s'installer ailleurs en Espagne ou ailleurs dans la zone euro, eh bien pour la Catalogne, cela sera très difficile. L'économie sera affaiblie par cette fuite de l'épargne des ménages à l'étranger, cette fuite de l'activité des entreprises à l'étranger. Et donc, pour l'État catalan, il faudra très rapidement parvenir à rassurer les ménages, les entreprises. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura aussi la question de la dette publique catalane. Il faudra que l'État catalan soit aussi en mesure de rassurer les marchés financiers sur la capacité de l'État catalan à rembourser la dette publique catalane.
On a entendu des prédictions tout à fait contradictoires. D'un côté, le ministre de l'économie espagnol qui annonce une chute de 30% du PIB, un chômage qui double. De l'autre, les indépendantistes qui affirment que la croissance en cas d'indépendance va être de 7%. Comment concilier ces deux approches, au-delà bien sûr de la stratégie politique, mais comment concilier ces deux analyses diamétralement différentes?
À très court terme, ce qui se passe habituellement quand il y a des incertitudes dans un pays, c'est qu'on voit une crise de change, une forte baisse des taux de change, on voit des investissements directs en forte chute, on voit une chute d'activité, et donc c'est ce que disait le ministre des Finances espagnol aux Catalans, si vous décider de devenir indépendant, il y aura une forte chute d'activité, une montée du chômage. Ça, c'est le scénario noir qu'on peut décrire dans une situation de forte incertitude, et c'est un scénario qui peut s'enclencher de façon rapide. Maintenant, si l'État catalan parvenait à rassurer les marchés financiers, à rassurer les entreprises qui sont installées en Catalogne et les ménages catalans sur le fait que la croissance va être maintenue en Catalogne, dans ce cas, on aurait un effet à moyen terme sur l'économie catalane qui serait probablement peu négatif. Mais la question, effectivement, c'est le court terme et cette transition. Comment l'État catalan pourrait-il faire pour rassurer l'ensemble des acteurs économiques ?
Vous avez beaucoup étudié la question de l'indépendantisme écossais. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'exemple écossais ?
Alors, on a à apprendre de l'exemple écossais que lorsque l'on fait un référendum sur l'indépendance, comme cela a été le cas en Écosse en 2014, la plupart des sondages disaient à ce moment-là que les Écossais allaient voter pour devenir indépendants. En fait, ils ont voté pour rester à l'intérieur du Royaume-Uni. Et la principale leçon, je pense, de ce référendum, en dehors du caractère très démocratique de ce référendum, sur le plan des votes des Écossais, c'est que les Écossais ont voté sur des critères économiques. Il y a eu dans l'organisation du référendum de nombreux textes qui ont été publiés à la fois par les pro-indépendantistes et par ceux qui souhaitaient rester à l'intérieur du Royaume-Uni. Et en fait, les principaux arguments économiques qui ont joué ont été le fait que si l'Écosse avait décidé de devenir indépendante, premièrement, elle souhaitait garder la livre sterling, mais à ce moment-là, la Banque d'Angleterre avait dit « mais si vous décidez de devenir indépendant, vous ne pourrez pas garder la livre sterling à l'intérieur de l'Écosse, il faudra que vous créiez votre propre monnaie ». Et donc, ça c'était déjà une grande difficulté pour l'économie écossaise, créer sa monnaie. Dans un deuxième temps, les indépendantistes écossais disaient « nous souhaitons quitter le Royaume-Uni, mais nous souhaitons rester à l'intérieur de l'Union européenne et même plus précisément rejoindre la zone euro ». Donc adopter l'euro comme monnaie, mais là à ce moment-là, les pays de l'Union européenne disaient « si vous décidez de quitter le Royaume-Uni, il n'y a aucune garantie qu'on vous accepte à l'intérieur de l'Union européenne et encore moins de façon rapide en tout cas à l'intérieur de la zone euro ». Donc pour l'Écosse, cela voulait dire quitter le Royaume-Uni, se retrouver à être un pays sans monnaie, sans appartenance à une grande Union européenne avec laquelle l'Écosse commerce beaucoup aujourd'hui. Actuellement, la plupart des exportations écossaises sont d'abord vers le Royaume-Uni et ensuite vers le reste de l'Union européenne. Donc cela faisait déjà de grandes fragilités pour l'économie écossaise. À cela s'ajoutait le fait que l'économie écossaise est une économie qui bénéficie d'un transfert budgétaire du Royaume-Uni, donc aller perdre ces transferts budgétaires en provenance du Royaume-Uni, aller arriver en étant un petit pays à l'échelle européenne avec un déficit budgétaire important, une dette publique importante, pas de monnaie, plus de garantie d'accès facile à ces marchés extérieurs. Donc tous ces éléments ont beaucoup pesé dans le choix des Écossais pour finalement décider de rester membre du Royaume-Uni.
Quelle que soit l'issue du conflit en Catalogne, les fractures dans le pays sont en tout cas déjà visibles. Certaines régions voient aussi le séparatisme catalan comme un manque de solidarité, et ce alors même que, curieusement, renaît un sentiment patriotique, jusque-là entièrement étouffé par le passé franquiste. À Madrid, mais aussi dans plusieurs villes et villages de la péninsule, drapeaux, hymnes nationaux réapparaissent. C'est le cas dans un petit village d'Estrémadure, région pauvre du pays, montré du doigt par les Catalans comme une des régions autonomes qui reçoit le plus de subventions. À Losar de Vera, un village de la province de Cáceres, Diane Cambon est allée rencontrer des habitants parfois très en colère contre les séparatistes.
La patronne du petit hôtel-restaurant El Bierzo a recouvert la façade de son immeuble de drapeaux espagnols. Comme elle, ils sont des dizaines à Losar de la Vera, un village de 3000 habitants situé au nord de l'Extrémadure, à avoir sorti de leur armoire la bannière nationale qui ne prend l'air normalement que lorsque le pays joue au mondial de football. La crise catalane fait vibrer la corde nationaliste. Maria Rossé, âgée de 71 ans, ne mâche pas ses mots.
Je suis espagnole jusqu'au plus profond de moi et cette situation me fait pleurer. Je ne veux pas que l'Espagne se divise, car il n'y a qu'une seule Espagne, grande et libre. Ce qui s'est passé, c'est d'une certaine manière un coup d'État et il faut envoyer en prison les trois têtes dirigeantes de la Catalogne.
Son fils Alberto, de 32 ans, qui travaille au bar de l'hôtel familial, ne croit plus au dialogue avec les Catalans et défend une intervention musclée des autorités.
On a bien vu que le dialogue n'allait rien résoudre du tout. La première chose à faire pour trouver une solution, c'est d'arrêter ceux qui ont commis le délit et ensuite appliquer les lois et tout rentrera dans l'ordre.
Car ce qui met en rage Alberto derrière ce mouvement indépendantiste, c'est le manque de solidarité des Catalans envers le reste du pays.
Je ne pense pas qu'ils réussissent à être indépendants. Et heureusement, car sinon, après les Catalans, il y aura les Basques et puis tous ceux qui veulent aussi être indépendants. Et les seuls qui vont rester en Espagne, eh bien, ce seront les régions pauvres comme la nôtre.
La Catalogne contribue à 15% du PIB national. Les régions les plus pauvres économiquement, comme l'Andalousie ou l'Extrémadure, bénéficient du système de redistribution des impôts, mais sont également des consommateurs de produits catalans. La fièvre indépendantiste a provoqué chez certains une réaction de boycott des biens fabriqués en Catalogne, comme le commente Mercedes, une patriote convaincue.
Moi, je préfère acheter aux Suisses ou aux Français qu'aux Catalans, car c'est pas possible de vouloir se séparer comme ça. Mais ils vont pas réussir à être indépendants. Notre roi va intervenir et va mettre le holà. Et tout ça ne mène nulle part, ils vont se taper dessus avant, entre eux.
Marta est une des rares clientes du bar à tenir un discours plus modéré. Elle fait partie de ces milliers d'Extrémaduriens dont la famille a émigré au Pays Basque ou en Catalogne dans les années 70 pour trouver du travail dans l'industrie.
Je comprends qu'ils veuillent être indépendants comme au Pays Basque. Ils ont leur tradition, leur langue. Le problème, c'est la façon de l'obtenir. On ne peut pas le faire de manière si brusque. Et puis, ils devraient poser la question à tous les Espagnols. Nous sommes aussi concernés. Et si jamais on ne voulait pas qu'ils restent avec nous dans le pays, peut-être que oui, peut-être que non.
La crise crée la division et renforce les clivages politiques non seulement en Catalogne, mais aussi dans tout le reste de l'Espagne.
C'est une histoire que la Serbie aimerait oublier. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 300 000 Allemands du Danube, les Donau-Schwaben, ont été chassés de Serbie, accusés d'avoir collaboré avec les nazis. Ceux qui sont restés ont été internés dans des camps. 70 ans plus tard, les descendants de ces colons, arrivés au XVIIIe siècle pour repeupler les terres reconquises par l'Empire des Habsbourg, se battent pour que Belgrade regarde en face son passé. C'est le temps des excuses. Un reportage signé Simon Rico.
Un mois à peine après son élection, le président serbe Aleksandar Vučić inaugurait en grande pompe un monument à la mémoire des Allemands du Danube. Placé sous le signe de la réconciliation germano-serbe, la cérémonie a eu lieu à Bački Jarak, une ville qui fut transformée en camp d'internement de 1944 à 1946 pour tous les civils allemands qui n'avaient pas été expulsés vers le Reich. Plus de 6500 personnes, surtout des femmes et des enfants, y sont mortes de faim, de froid et de maladie. À la tribune, Aleksandar Vučić présente les excuses du peuple serbe.
Aujourd'hui, chers amis, le peuple serbe présente ses condoléances à des victimes qui ne sont pas nationales. C'est la seule manière pour que nous puissions atteindre le respect et la vérité pour nos propres victimes. Le peuple serbe est petit par le nombre, mais c'est un grand peuple, car la grandeur d'un peuple se juge à ses actes, par le respect qu'il manifeste aux autres. Je vous remercie donc d'être venu montrer aujourd'hui, avec dignité, comment nous respectons les victimes des autres peuples.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis envahissent la Serbie. La plupart des Donau-Schwaben collaborent avec l'occupant de gré ou de force. Quand les partisans communistes de Tito et l'armée rouge reconquièrent la région, la majorité des Allemands sont chassés violemment. Ceux qui ne partent pas sont enfermés dans d'immenses camps comme celui de Bački Jarak. Une fois libérés, ils fuient massivement en Allemagne. Mais à leur arrivée, ils se retrouvent installés dans des camps de réfugiés. Christian Glass dirige le musée des Donau-Schwaben qui a ouvert en 2000 à Ulm, la ville d'où étaient partis ces colons deux siècles plus tôt.
L'Allemagne était détruite. En plus de ces réfugiés de l'Europe du Sud-Est, il y en avait d'autres qui venaient de Pologne ou de Tchécoslovaquie. Au total, on estime à 14 millions le nombre de réfugiés qui sont arrivés en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. C'était un très grand problème pour l'Allemagne.
Avant la Seconde Guerre mondiale, on recensait environ 500 000 Allemands en Voïvodine. En 1950, il n'était plus que quelques milliers. Si la province yougoslave vantait avec vigueur sa diversité, 6 langues officielles et une trentaine de communautés, les Donau-Schwaben ont toujours été tenus en suspicion par le pouvoir socialiste. Alors ils se faisaient discrets, comme le raconte Mihailo Veninger.
À l'école, j'osais à peine dire que j'étais allemand. Les instituteurs le savaient à cause de mon nom de famille. Un jour, ma maîtresse m'avait d'ailleurs demandé pourquoi je l'écrivais avec un V au lieu d'un W. Pour être honnête, moi, je n'étais pas trop inquiet. C'était surtout nos parents qui avaient peur. Nous, les enfants, on s'en fichait un peu.
Aujourd'hui, la minorité allemande de Serbie se meurt à petit feu. Dans les villages de Voïvodine, les carrés allemands des cimetières sont envahis par les ronces et la plupart des vieilles croix sont renversées. Leurs maisons traditionnelles, qui ont donné à cette région du nord de la Serbie son style architectural, ont été attribuées à de nouveaux colons venus des régions pauvres de Bosnie-Herzégovine, de Croatie ou du Monténégro. Mané, la vingtaine, a grandi dans l'une d'elles.
On a toujours su que c'était des maisons allemandes, mais personne n'évoquait jamais cette histoire. Moi, j'appartiens à une génération bien plus tardive, je suis né en 1996. Nous, on nous a beaucoup plus parlé des histoires de la guerre avec les Croates ou des bombardements de l'OTAN. Les Allemands, personne n'en parlait plus.
Pendant longtemps, les autorités yougoslaves puis serbes ont volontairement ignoré le sort tragique des Donau-Schwaben. Mais sous la pression des associations qui se sont formées en Allemagne, en Autriche et en Amérique, Belgrade a fini par reconnaître officiellement les exactions dont ils ont été victimes. Un geste tardif, mais qui a au moins permis à Aleksandar Vučić de faire taire toute critique de Berlin contre sa dérive autoritaire.
Depuis des semaines, on évoque la crainte d'une guerre atomique entre les États-Unis et la Corée du Nord, un scénario qui rappelle les pires heures de la guerre froide. Avant la chute de l'URSS, l'Ukraine était la troisième puissance atomique du monde. Elle a renoncé à son arsenal en 1994, mais dans le centre du pays, à Pervomaïsk, un musée offre un témoignage unique sur cette époque où la dissuasion nucléaire était liée à tous les dangers. Sur place, Sébastien Gobert.
1, 2, 3. On presse deux boutons en même temps et la petite cellule prend vie. Les panneaux de commande clignotent de couleurs vives, les sonneries sont assourdissantes. Cela ne dure que 30 secondes et tout s'arrête. Le missile est lancé. Si quelqu'un avait effectué la même manœuvre il y a 30 ans, il aurait pu rayer de la carte un territoire grand comme la moitié de la France. Aujourd'hui, c'est un enfant de 5 ans et son père qui s'amusent à 45 mètres sous terre dans ce qui pourrait être un décor de vieux films de science-fiction. À Pervomaïsk, au milieu des champs, la 46e division des forces de missiles stratégiques soviétiques avait construit un vaste complexe de lancement de missiles, notamment nucléaires. Ils ont été évacués au début des années 90 et le musée a ouvert en 2001. C'est un endroit unique qui mêle pédagogie et authenticité. Tout a été préservé, les longs tunnels, les petits ascenseurs et les lourdes portes blindées. Tout reste en état de fonctionnement, même sans missiles. Les guides expliquent avec détachement la vie sur la base et les procédures compliquées qui pouvaient déboucher sur un conflit nucléaire. Les silos souterrains pouvaient abriter des équipes complètes pendant 45 jours. Dans le récit des guides, une certaine fierté pour la technologie remarquable utilisée dans la construction de la base, et aussi une petite pointe d'amertume. En 1994, l'Ukraine avait renoncé à son arsenal nucléaire en échange du mémorandum de Budapest. Signé par les grandes puissances de l'époque, il garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. 20 ans plus tard, il n'avait pourtant pas permis de stopper l'annexion russe de la Crimée. Ici, à Pervomaïsk, on se plaît à croire qu'on aurait pu empêcher la guerre avec la Russie grâce à la dissuasion nucléaire. Mais en fait, on n'aime pas parler de la politique d'aujourd'hui. Pervomaïsk s'est figé dans le temps, et ce qu'on ressent toujours ici, c'est le souvenir d'une époque où cette base reculée a fait trembler le monde.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.